consonance.
De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre.
Consonance.
Lutter pour la langue. Un texte de Jean-Albert Mazaud. Lecture féminine par Anne Clairon.
J'ai la tentation de la voix négative. Devant tant de bavasses, de dysentériques verbeuses. Silence. Mais. Peut-être faut-il. Encore et toujours lutter pour la langue. Reprendre le matériau, tenir ses outils et polir, racler, scier, heurter le verbe inouï, l'adverbe suranné, la ponctuation sensitive, la syntaxe à désaxer pour réinventer la phrase. Réinventer la phrase. Tout n'a été dit que pour les paresseux. Lève-toi de bonne heure. Reviens en joie à l'atelier. Écris. Œuvre, ouvrier. Façonne. Tu hérites d'un savoir-faire immense, mais le savoir peut être sclérosé par un fer réitératif. Alors refais, façonne à ton tour. L'invention est toujours à réinventer. Interroge-toi. Comment tu parles en dedans face à ta gueule? Uses-tu de mots perroquets? Traînes-tu des valises de tournures prêtes à l'emploi? Ou mâches-tu le pré-mâché scolaire? Pratiques-tu la linguisterie? Si tu es honnête, si tu réponds « oui, c'est probable », fais silence. Et... écoute. Écoute-toi. Il y a un bourdonnement d'abeilles, à peine qui travaille au plus profond de la ruche. Il y a les fleurs, bien sûr, mais qui butinent ne produit pas forcément du miel. Et toi? Es-tu guêpe? Papillon ou bourdon? Ou veux-tu être ouvrière? Œuvre, je te dis. Écoute. Écoute-toi. Écoute en toi le bourdonnement. Ta voix secrète. La voix d'or, le miel. Le soleil liquide. Quelques alvéoles, presque rien, mais quelque chose déjà, quelque chose à toi. C'est la direction. J'ai pris cette route, j'ai fait mon miel. Mais mon parcours n'est pas le tien. À toi de l'inventer, de tracer la voie d'or.
Un autre temps. Un texte de Stéphane Padovani sur une lecture de Rémi Clenet.
Les images d'un soldat russe, terré, en position fœtale, dans un sillon de boue, filmé par un drone et rejetant l'obus qui tombe à ses pieds, comme on relance un déchet tombé d'on ne sait où. Un message de mort dont on ne veut pas. Comme un manifestant relance une grenade lacrymogène. Et le père, un ballon d'enfant, venu déranger sa sieste sur la plage, m'a fait mesurer tout à coup l'horreur de la situation dans les deux camps ennemis. Mieux que n'importe quel article l'a fait jusqu'à présent. Cette éternelle horreur de la guerre, qui tombe comme le destin du haut d'un drone piloté par des dieux féroces, inéluctables. Mais les dieux ont toujours des noms. des identités. Ils font des choix, les imposent, les maintiennent envers et contre toute humanité. Ce soldat russe recroquevillé dans la boue, filmé par une machine, a fait ressurgir d'autres images. Celle d'un cinéaste russe, peut-être le plus russe des cinéastes, sans qu'on pût jamais le taxer de nationaliste, tant il se plaçait à rebours de ses idéologies destructrices. Andrei Tarkovsky. Je me suis demandé comment il aurait filmé cela. La condition boueuse de l'homme éternellement pris dans les guerres. Mais la réponse est déjà dans ces films, à voir et revoir. Expérience indépassable pour moi, comme spectateur, à l'âge précoce où je les ai découverts, sur cassette VHS. Je me suis demandé, avant de les revoir encore, tous et dans l'ordre chronologique, en DVD cette fois, version restaurée, afin de raviver ce projet d'écriture autour duquel je tourne depuis plusieurs années, sur lui, athée. Étrange d'entendre athée s'agissant d'un homme de foi. Une foi insoumise aux dogmes et jamais prosélyte, décédé en 1986, ce qu'il penserait aujourd'hui de la Russie de Poutine. Plus exactement de Poutine en Russie, car la Russie ne lui appartient pas, bien qu'il le croie sans doute. Ce qu'il penserait de ce régime à la fois proche et différent, dans son contexte interne et international, du régime soviétique contre lequel il s'est cogné toute sa vie. Je me suis demandé ce qu'il éprouverait, surtout, puisque c'était un homme d'épreuves plus que de preuves, d'émotions miscibles et non d'émulsions rationnelles. Un artiste et non un philosophe, encore moins un chroniqueur de son temps. Car le temps est scellé, écrivait-il en titre de son livre. C'est-à-dire ici, authentifié comme substance essentielle du cinéma, vivante et mobile dans la cavité du film et dans celle de la mémoire, puis confirmée, solennellement, librement, dans un pacte avec chaque spectateur. Devant ces films, on se retrouve à suivre l'homme qui marche derrière soi, paradoxalement le cinéaste pèlerin cheminant dans la zone, lançant de longs rubans de plans, repères à suivre pour mieux s'égarer, perdre sa raison, c'est-à-dire sa logique figée, son rationalisme, son scepticisme, son cynisme. On se retrouve à flotter comme cette feuille parmi les algues toutes vibrantes des flux du fleuve, ondulant sous la lumière ou avançant parmi les hautes herbes d'une prairie, comme un regard enfin libéré du corps s'en va dans le monde. Essence parmi d'autres essences, entre l'humus et le ciel, la branche et son reflet. On se retrouve à puiser dans sa propre faiblesse une énergie insoupçonnée, à croire que tout n'est pas perdu, inexorablement gâché, abîmé, puisque la beauté fertilise encore notre histoire intime et commune, qu'un homme continue de nous envoyer des lettres pleines de ferveur sous forme de films, par-delà son absence. On se demande comment parler de lui, de ses lettres pellicules. On songe à lui en écrire une. Elle débuterait ainsi. Cher Andrei Arsenievitch, ayant reçu dans votre vie des centaines de lettres de gens les plus humbles, qui n'étaient pas les moins précieuses à vos yeux, vous ne vous étonnerez pas de ce nouvel envoi. Et si je vous dis que cette lettre est un acte de foi, moi qui ne suis ni croyant, ni russe, ni slave, ni historien du cinéma, ni critique, ni philosophe, ni votre ami ou votre parent, ni rien qui puisse me rendre apparemment légitime à le faire, c'est que j'ai besoin de m'engager sur ce chemin. Vous teniez pour essentiel, justement, ce moment où l'individu s'engage sur un chemin, peu importe lequel. Considérons alors que je suis cet individu, et ce texte, le chemin. Je m'y suis engagé sans savoir ce que j'y trouverais, ni même si je trouverais quelque chose ou quelqu'un, pas même vous. Je m'y engage le cœur battant, mais aussi dans la calme conscience de ce geste, de ce mouvement qui s'imprime en suivant le vôtre. Voilà un commencement possible, à choisir parmi tout un matériau composite de notes et d'articles gardés au fil du temps. Mais le temps n'a pas de fil, n'est pas une marionnette aux mains du cinéaste monteur. Il se tisse et se déchire simultanément, nous laisse voir par ses trouées un autre temps, celui qui anime l'œuvre, cette œuvre en miroir où l'on ne reconnaît plus rien, où l'on reconnaît tout. Ainsi peut-on voir peut-être une croix dans la Volga plantée sur l'eau. Le fantôme de Pasternak vous annonçant 7 films à faire, ni plus ni moins. L'attente d'une femme assise de 3/4 d'eau sur une barrière, une attente sans objet. L'étreinte d'un couple au-dessus d'un fossé, les jambes de l'homme comme un pont. L'étreinte d'un couple en lévitation, le cœur de la femme comme un pont. Un corps d'enfant dans un marais hérissé d'arbres morts. Des murs lépreux, des icônes dorées. Un chien qui lape un bol de lait d'une blancheur surnaturelle. Mon caractère est celui d'une plante, disait-il. Alors, j'essaye de l'imaginer ainsi. Petit garçon bien avant le sacrifice. Poussant nimbé de brume dans le village d'enfance, à Yourevets, près de la baie, il faudrait lire Tolstoï. Et plus tard, arpentant la taïga, ouvrier collecteur, ce voyage avec une équipe de géologues, ce voyage voulu par la mère qui l'a sauvé. Viennent des images de Dertsu Ussala. Il aimait Kurosawa. La petitesse des hommes perdus dans la steppe, grains de cosmos battus par le vent. J'essaye de l'imaginer dans les locaux du Goskino, harcelé par des bureaucrates aussi inflexibles que 73 administrations à casquette de plomb. J'essaye de l'imaginer, bien plus tard encore, dans l'exil accablant d'un hiver italien, tandis que l'appareil soviétique retient en otage son fils Andriushka, sa femme Larissa et leur chien Dakus. Son cinéma est un parcours du non-combattant, mais il n'est jamais paisible pour autant. Que veut-il de nous, spectateurs? Ne nous demande-t-il pas le meilleur de nous-mêmes? Nous demande-t-il, comme le très jeune fondeur de cloche, Andrei Rublev, de faire chanter la terre? De trouver en nous un chant perdu? Ce que nous avons égaré sans le savoir, ni le connaître. Que nous avons continué à perdre, bien que n'étant pas seuls responsables, mais pas moins négligents, indigents. Indigènes d'un autre temps, où les enfants mutants pouvaient déplacer des objets rien qu'en les regardant. Ce qu'on fait en filmant, finalement, enfant prodigue au visage enfoui dans les bras paternels, retour de Solaris à la source Rembrandt, amour patient, inconditionnel.
Lutter pour la langue. Un texte de Jean-Albert Mazot. Lecture masculine par Corentin Boutou.
J'ai la tentation de la voix négative. Devant tant de bavasses, de dysentériques verbeux. Silence. Mais peut-être faut-il encore, toujours, lutter pour la langue? Reprendre le matériau, tenir ses outils et polir, racler, scier, heurter le verbe inouï, l'adverbe suranné, la ponctuation sensitive, la syntaxe à désaxer, pour réinventer la phrase. Tout n'a été dit que pour les paresseux. Lève-toi, de bonne heure, reviens en joie à l'atelier, écris, œuvre, ouvrier, façonne. Tu hérites d'un savoir-faire immense. Mais le savoir peut être sclérosé par un fer réitératif. Alors refais. Façonne à ton tour. L'invention est toujours à réinventer. Interroge-toi. Comment tu parles? En dedans, face à ta gueule. Uses-tu de mots perroquets? Traînes-tu des valises de tournure prêtes à l'emploi? Mâches-tu le pré-mâché scolaire? Pratiques-tu la linguisterie? Si tu es honnête, si tu réponds oui, c'est probable. Fais silence. Et écoute. Écoute-toi. il y a un bourdonnement d'abeilles, à peine, qui travaillent au plus profond de la ruche. Il y a les fleurs, bien sûr, mais qui butine ne produit pas forcément du miel. Et toi ? Es-tu guêpe, papillon, bourdon ? Ou veux-tu être ouvrière ? Œuvre, je te dis. Écoute. Écoute-toi. Écoute en toi. Le bourdonnement. Ta voix secrète. La voix d'or. Le miel. Le soleil liquide. Quelques alvéoles. Oh, presque rien. Mais quelque chose déjà. C'est quelque chose à toi. C'est la direction. J'ai pris cette route, j'ai fait mon miel. Mais mon parcours n'est pas le tien. À toi de l'inventer. De tracer la voie d'or.
Portrait du père à la voix d'or. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture d'Inès Ferreira.
Mon père ? Mon père ? Oui, je peux vous en parler. Germain Pochon, c'est son nom. Vous le connaissez pas ? Non ? Jamais entendu parler ? C'est pas étonnant, hein, vu là d'où vous venez. Je crois que c'est Aznavour qui a dit un jour « Mieux vaut être has been qu'has never been ». Mon père, lui, n'est jamais sorti de la seconde catégorie. Ceux qui n'ont jamais percé. Il n'a jamais été démodé non plus vu que il a jamais été à la mode. Encore que la mode par chez nous. Vous ne trouverez pas son nom en haut des affiches. Ni même en bas. Il n'apparaît nulle part. En tout cas, pas sur les affiches des grandes salles de concert. Je vous montrerai celles qu'il a gardées. Des petites affiches, des affichettes à coller sur la vitrine des bureaux de tabac, des épiceries. Germain Pochon, en concert à la brocante de Fleuriel. Foire au jambon de Saint-Didier-la-Forêt, animation par Germain Pochon. Retrouvez Germain Pochon à Montbeny pour le 14 juillet. Avec toujours une photo de lui, visage souriant, coupe mulet, moustache 3ème République et un micro dans la main. Il était chanteur, mon père. Dans la catégorie des seconds couteaux, comme il disait souvent. C'était une fierté pour lui d'avoir fait une carrière en sous-marin. Personnellement, plutôt que second couteau, je préfère l'expression 3ème cuillère. Mais c'est pas péjoratif, vous savez, hein. Faut de tout dans une cuisine. Et ça a duré 40 ans. Je sais pas pourquoi j'emploie le passé soudainement. Il chante toujours, hein. Il remonte sur scène ce samedi, à la maison de retraite de Saint-Pourçain. Mais bon, vous pourrez pas y assister, vu que c'est réservé aux résidents. En sous-marin. Oui, c'est bien ça. Je les compte plus, les chanteurs qui ont disparu aussi vite qu'ils sont arrivés. Mon père, lui, il lui a fallu du souffle pour se maintenir ainsi, hein, sous l'eau. C'est pas un avion de chasse, hein, Germain. Pas le genre à passer le mur du son pour s'écraser en mer. Aucune trace du pilote. Non, lui, c'est la charrette de la chanson française. Tirée par un vieux cheval plein de certitudes et d'applications. Il trace le même chemin de campagne, depuis des décennies, la même sente. Il n'est jamais sorti du périmètre. C'est ce qui le fait tenir, je crois. Labouré, inlassablement, les mêmes lieux, toujours seul. Connaître la joie de voir des gens l'écouter en dodeninant de la tête. Je vais te dire en vérité, m'attendre encore sur le palier, espérer que dans ma montée, de l'escalier, dans mes bras venir te loger, et sur ton lit te culbuter. Non, attendez, non, n'en partez pas, madame. Je vous ai chanté un morceau comme ça, de mémoire, mais il n'est pas révélateur de ce qu'il fait. Il la chante pas au thé dansant, celle-ci. Ça fait partie d'un album qui s'est pas trop vendu. Il s'était essayé au genre grivois, vous voyez, un peu cabaret. La vie de mon père, tout le monde s'en fout, mais j'ai mal choisi la chanson. Excusez-moi. Il se contente pas de reprendre les autres, vous savez. Il a composé aussi. Des chansons d'amour. Des choses du temps d'avant sur les roses. La beauté des femmes, la communale, les premiers bals, le temps des yéyés. Il en a même fait une sur la deux chevaux. Tenez, tout est là. 22 disques. Un tous les deux ans en moyenne. C'est pas mal quand même. Hein. C'est tout en CD et autoproduit bien sûr. On a fait les enregistrements dans son garage avec un synthé, une bonne machine. Acquise avec un cachet un peu plus conséquent que d'habitude. C'est son seul fait d'armes à Germain. Je dois encore avoir l'affiche par ici. Il a fait la première partie de Daniel Guichard au Comice agricole de Baraqueville. Il n'était pas fier ce jour-là, avant de monter sur scène. Mais bien plus quand le concert s'est achevé. Il a même pu causer avec Daniel. C'est avec les sous qu'on a pu enregistrer ses chansons. 500 euros le cachet. J'ai joué les ingénieurs du son. En fait, c'est moi qui l'ai poussé. Il avait des chansons en pagaille. 30 années de carrière, vous imaginez. Et je voulais qu'il laisse une trace. J'ai rajouté un peu de ma poche pour le matos. Il vend ses disques de la main à la main, à la fin des concerts. Les disquaires n'en veulent pas. Quant à Internet... Oh, ma rose, tu es ma rose. Dans ce jardin odorant, je viens vers toi à présent, j'ose humer ton parfum en t'étant. C'est plutôt ça son style. À la fin des concerts, les gens viennent le voir à la buvette. C'est un homme du peuple, mon père. Le Germain, c'est pas du genre à jouer les stars. Alors il cause avec son public. Des vieilles personnes, souvent. Elles lui disent qu'il est un baume pour le cœur. Que par ici, les chanteurs ne viennent pas. Et puis qu'ils ont supprimé la ligne de car pour aller à Moulins et que c'est pas simple d'assister à un concert. Heureusement qu'il est là. Ça le réconforte, Germain. Il bise des joues, serre des mains, esquisse des pas de danse, des danses d'avant. Comme ça, sur le parquet, avec des dames qui rosissent. Mon père, c'est mieux qu'un médecin. Il soigne tout et sans médicaments. Même qu'il aurait dû être remboursé par la sécu. Il aurait peut-être mieux gagné sa vie. Parce que dans la vie normale, mon père est postier. Ils ont été sympas à la poste. Hein. Ils lui ont aménagé un emploi du temps juste pour lui, pour qu'il puisse tourner, le samedi. On l'a jamais trop vu le week-end, mon père. Entre le bal des anciens, celui des pompiers, les lotos, les associations qui le sollicitent partout, les noces de diamants, les anniversaires de grand-mère, il a tout fait. Il a même chanté dans des salons, chez les gens, comme ça, devant le buffet. Un simple micro, une bande pour la musique, et c'est parti. Ça fait toujours un joli cadeau. Il venait de fêter ses 40 ans quand il a fait un concert de triste mémoire. Il passait en première partie d'un groupe. J'ai oublié son nom. Je préfère d'ailleurs ne pas m'en rappeler de cela. Pourtant, le chanteur avait été sympa. Hein. Il lui avait dit qu'il lui prêtait 3 musiciens pour l'accompagner. Son tour de chant n'était que de 5 morceaux, histoire de chauffer la salle, mais pas trop quand même. Et puis, à la dernière minute, les musiciens n'ont pas voulu monter sur scène. Ils buvaient leur bière en se moquant de lui. Et il a dû improviser. A cappella. Oui, madame. Il a tout chanté comme ça, les 5 chansons, sans musique. Et quand il a quitté la scène, il a été bien applaudi. Le soir même, ma mère le quittait pour le batteur. Faut toujours se méfier des batteurs. Tu reviendras par le chemin chantant. Au bruit de ton pas, j'irai à ton devant.
Tu porteras un panier d'osier, des fleurs dedans, dans nos bras enlacés. Non, 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 c'est...
Je me rappelle plus la fin du couplet. Elle est belle pourtant cette chanson. Il l'avait écrite pour ma mère. Il voulait la lui chanter quand elle reviendrait, mais elle est jamais revenue. Il l'a quand même enregistrée. C'est dans « Oh les oiseaux », son dernier album. C'est un chanteur de charme, mon père. Il est beau, n'est-ce pas? Il plaît, hein? Il a son public, hein, qui a vieilli avec lui. Mais le public de Johnny aussi a vieilli. Même qu'il lui a envoyé des chansons à Johnny. Mais il n'a jamais eu de nouvelles. Et puis un jour, il le voit passer à la télé, chez Drucker. Et là, surprise, mon père reconnaît une chanson qu'il lui avait écrite. Je vous jure que c'est vrai, hein. La musique avait été transformée, mais le texte était le même. La tête qu'il a fait. Le lendemain, il a couru acheter le disque et en l'ouvrant, il a découvert que la musique était signée Jean-Jacques Goldman et que Johnny lui-même avait signé les paroles. J'étais furieuse quand il m'a appris ça. Pas tant que Johnny se soit accaparé un texte de mon père, mais que lui-même n'ait pris aucune précaution. Les paroles n'étaient déposées nulle part. Un peu comme si vous les abandonniez sur un banc. Illico, quelqu'un d'autre en devient propriétaire. Mais c'est Germain, ça. Que voulez-vous? Lui, il était aux anges. Johnny avait trouvé son texte tellement bon qu'il l'avait pris sans même changer une virgule. C'était une forme de consécration. Moi, je lui parlais de droit d'auteur, que la chanson passait en radio. Sur Rire et Chanson, il l'a jouée 2 fois par jour. Il devrait toucher quelque chose là-dessus. Ça améliorerait l'ordinaire. Mais lui, il s'en fichait. Il n'attendait qu'une chose, la nouvelle tournée de Johnny, où il pourrait enfin entendre sa chanson sortir de la bouche même de son idole. Alors quand les dates sont parues dans la presse, il a acheté son billet pour aller le voir à Lyon. Moi, à l'époque, je vivais en banlieue parisienne et j'ai pris ma place pour l'Accor Arena. Ça a été son dernier concert à Johnny. Il est tombé malade et la tournée a été annulée. Il est jamais venu à Lyon et mon père n'a jamais pu le voir. Il est mort peu de temps après. Et Germain a poursuivi sa carrière d'apnéiste. Quand je suis revenue le voir, il était triste d'avoir raté son rendez-vous. Parlait d'arrêter. Alors je lui ai dit que j'avais une bonne nouvelle à lui annoncer. Il pensait que j'allais me marier, mais... Je lui ai dit que lorsque Johnny a commencé son concert à Paris, il a salué le public, puis il a dit « À mon ami, Germain Pochon ». Et c'est pendant le rappel qu'il a chanté sa chanson. Voilà. C'est ce que je lui ai dit à mon père. Ça lui a donné le courage de remonter sur scène. On prévoit même un nouvel album qui se vendra à 50 exemplaires comme les autres. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est de croire dans ce qu'on fait. Pas vrai? Et de continuer. Même si Johnny est mort.